On vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute d'Europe 1. Il est midi et demi.
Europe Midi Weekend.
Lénaïque Monnier.
La droite va-t-elle arriver au pouvoir en Italie? 50 millions d'Italiens appelés à voter depuis 7h ce matin et jusqu'à 23h. Giorgia Meloni, la leader d'extrême droite, est aux portes du pouvoir. Nous irons à Rome dans un instant retrouver notre envoyé spécial Frédéric Michel et puis Marc Lazare qui est historien, sociologue, prof à Sciences Po Paris et à l'Université Louise de Rome sera mon invité pour parler du futur de ce pays. Passage en force ou bien concertation, quelle méthode pour faire passer la réforme des retraites? L'exécutif se donne encore quelques jours pour trancher. On verra ce qui attend le gouvernement cette semaine avec Yves Tréhard du Figaro. Nous le ferons également réagir à la semaine très mouvementée de Jean-Luc Mélenchon. Et puis dans la troisième partie d'Europe Midi Weekend, on va parler de sport. Évidemment, pas de troisième maillot arc-en-ciel pour Julian Alaphilippe, mais avec l'argent de Christophe Laporte, le bilan français n'est pas si mauvais, nous dira Axel May. Et puis le football, un dernier match pour l'équipe de France de foot avant la Coupe du Monde au Qatar. Les joueurs de Didier Deschamps veulent terminer en beauté ce soir au Danemark en Ligue des Nations. Voilà pour le programme. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, moins d'averses et de pluie qu'hier en général, et Naïque. Retour d'un soleil généreux même sur les régions méditerranéennes, sauf en Corse, et des maximales toujours fraîches entre 16 à Guéret et 23 à Marseille.
Et météo complète juste avant 13h. À tout à l'heure.
Europe 1.
On vote donc depuis 7h ce matin en Italie. 50 millions d'Italiens qui sont appelés aux urnes pour des élections législatives qui pourraient bien être historiques puisque Giorgia Meloni est donnée favorite du scrutin. Elle pourrait être la première femme à diriger le pays. Bonjour Frédéric Michel.
Bonjour.
Alors cette coalition de droite inquiète, hein, l'Europe qui parle d'extrême droite, voire de droite radicale. Mais vu d'Italie où vous vous trouvez, on ne vit pas tout à fait les choses de la même manière.
Effectivement, depuis mon arrivée à Rome, la plupart des personnes que j'ai rencontrées me disent ne pas être effrayé, ne pas avoir peur d'une arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni et de son parti Fratelli d'Italia. Ils ne sont pas tous non plus indifférents à l'image que cela peut renvoyer dans le reste de l'Europe et du monde. Beaucoup iront voter contre, notamment les plus farouches opposants de l'extrême droite. D'autres nombreux aussi s'abstiendront. Ils ont déjà tenté tellement de partis et de coalitions. Il y a un peu de fatalisme. Laura, elle, comme semble-t-il une majorité d'Italiens de toutes conditions, déposera sans complexe le bulletin Meloni dans l'urne. Elle travaille dans l'hôtel de ses parents et fait partie de la classe moyenne supérieure.
Elle a toujours dit la même chose. Elle n'a pas changé d'idée pendant deux ans et donc elle est la plus juste maintenant pour nous. Je suis une femme, donc j'espère que nous allons une femme pour l'Italie. Moi, j'espère vraiment un changement.
Alors Frédéric, vous nous disiez que c'était pas vraiment la foule hein, au bureau de vote. En même temps, c'est assez logique puisque les Italiens ont jusqu'à 23h hein, ce soir.
Oui, effectivement, c'est une tradition ici pour laisser les Italiens profiter de leur dimanche. Les bureaux de vote sont ouverts très tard et disons-le clairement, ce matin à Rome, j'ai vu plus de monde faire la queue autour des grands sites historiques, le Vatican, le Colisée, le Panthéon, plutôt que devant les écoles où, comme en France, les Italiens se rendent pour voter. Même ambiance dans les quartiers populaires du centre où je me suis rendu. Alors, vous l'avez dit, dans tout le pays, plus de 50 millions d'Italiens sont appelés aux urnes pour élire 400 députés et 200 sénateurs. C'est une nouveauté. Avant, les parlementaires italiens étaient beaucoup plus nombreux, mais le mouvement 5 étoiles exigeait cette économie. Et ironie du sort, si aujourd'hui la gauche se retrouve en difficulté, c'est en raison d'un fâcheux calcul électoral pour tenter de limiter la progression des Cinque Stelle. Elle a changé le système de scrutin avec un mixte de proportionnel, de vote uninominal, de listes bloquées pour favoriser les coalitions. Et justement, la droite, face à une gauche divisée aujourd'hui, a réussi son union et une femme l'incarne, Giorgia Meloni.
Merci Frédéric Michel, envoyé spécial à Rome pour Europe 1, pour ces élections législatives qui sont donc scrutées de très près en dehors des frontières italiennes. Bonjour Geoffrey Branger.
Bonjour.
L'Europe attend très fébrilement le résultat du vote.
Oui, si cette élection intéresse tant l'Europe, c'est parce qu'elle pourrait avoir d'importantes conséquences. À Bruxelles, on s'inquiète de voir un second membre des 27 placer l'extrême droite au pouvoir après la Suède il y a 10 jours. En particulier, une eurosceptique à la tête de la troisième puissance européenne, d'autant que l'Italie pourrait trouver du soutien donc auprès de la Suède, mais également de la Pologne et de la Hongrie, deux pays en conflit avec la Commission européenne qui leur reproche des atteintes à l'état de droit. Ursula von der Leyen, la présidente de cette commission, a déjà anticipé la victoire de l'extrême droite et menace l'Italie de sanctions en cas d'atteinte aux principes démocratiques de l'Union européenne. Elle pourrait notamment priver le pays de certains fonds. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une part conséquente du plan de relance européen est consacrée à l'Italie, 70 milliards sur les 750 prévus. La crainte de l'UE, c'est que cet argent ne soit pas utilisé à bon escient. Et puis, en cas de victoire de Giorgia Meloni, d'autres prises de position pourraient bien compliquer les rapports du pays avec l'Europe, comme l'immigration, l'avortement ou encore la guerre en Ukraine.
Merci pour ces précisions, Geoffrey Branger. Pour aller encore plus loin, j'accueille Marc Lazare, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes historien, sociologue, vous enseignez à Sciences Po Paris. Vous êtes avec nous parce que vous êtes l'un des plus grands spécialistes de la vie politique italienne. On vient d'entendre Geoffrey nous expliquer que l'élection était suivie de près à Bruxelles, après la victoire d'un bloc de droite et d'extrême droite en Suède. Quelles seraient les répercussions d'une victoire de Giorgia Meloni aux élections législatives ce soir ?
Mais il faudra attendre. D'abord attendre bien sûr le résultat, ensuite voir comment sera composé le gouvernement. Ça sera très important et c'est pas simplement Madame Meloni qui va le composer. Elle va devoir discuter avec le président de la République qui lui est un Européen convaincu, Monsieur Mattarella, qui au terme de l'article 92 de la Constitution a justement la possibilité de nommer les ministres sur proposition du président du Conseil. Et on sait que ce ministre, que ce président de la République sera très attentif au poste justement de ministre des Affaires étrangères et des Affaires européennes. Et donc, en fonction de cela, on va essayer de comprendre ce que fera Madame Meloni. C'est vrai qu'elle est très ambivalente. D'un côté, elle a dit « mais non, mais je respecterai l'Union européenne ». Et d'ailleurs, dans le programme commun de la coalition, on dit que l'Italie restera dans l'Union européenne. Et de l'autre côté, elle a dit « attention, il faudra peut-être réviser le plan de relance. Attention, je suis du côté plutôt des Polonais, des Hongrois et d'ailleurs ». Son parti, comme celui de la Ligue de Matteo Salvini, n'a pas voté le document au Parlement européen qui condamne l'évolution antidémocratique de la Hongrie. Et donc voilà, il y a des motifs de préoccupation, mais si j'ose dire, en bon français, wait and see, voyons ce qui va se passer et on comprendra un peu mieux d'ici la fin du mois d'octobre. Oui. Pas de gouvernement avant la fin du mois d'octobre.
Et cette percée, est-ce que c'est une forme de dégagisme, selon vous ?
Oui, incontestablement. Et d'ailleurs, dans votre reportage, on l'entendait bien, elle n'a jamais été au pouvoir, même si elle a été ministre très jeune, mais d'un ministère qui n'avait pas beaucoup de poids de 2008 à 2011. Mais son parti, qu'elle a créé en 2012, ça fait 10 ans qu'il est à l'opposition, et tous les autres partis ont été associés au pouvoir. Eh ben, c'est comme dans d'autres pays. Pourquoi pas eux cette fois-ci ? Pourquoi pas elle ? Et c'est une des raisons pour lesquelles elle est effectivement l'objet d'une dynamique politique importante qu'on va peut-être vérifier ce soir.
Et justement, je rebondis sur ce que vous disiez, quelles seraient les relations entre la France et l'Italie désormais si elle arrivait au pouvoir ?
Alors là, ça va être aussi la grande incertitude, parce qu'entre Mario Draghi, le président du Conseil sortant, et Emmanuel Macron, c'était la grande entente. C'était quasiment une lune de miel. Mm-hmm. Les hommes s'estimaient réciproquement et ils avaient beaucoup d'intérêts communs au niveau européen. Giorgia Meloni, parlons clair, je pèse mes mots, est anti-française. Et on le sait, elle en a fait de très nombreuses déclarations. Depuis quelques jours, elle a atténué ce discours et il y aura deux possibilités. Ou ce sera la crise, mais une crise très préjudiciable pour les deux pays. Nous sommes deux partenaires commerciaux pour l'Union européenne, ou alors, et c'est sans doute cela qui s'imposera, on va avoir la raison d'État, on va essayer de faire quelques petits sourires et surtout d'essayer de trouver un point commun, et ce point commun, il existe, c'est pour l'Italie et la France d'essayer d'assouplir les critères sur la dette et le déficit public. Mais ça ne sera plus la lune de miel qui a existé pendant un an entre Macron et Draghi.
Merci beaucoup Marc Lazare d'être venu nous apporter vos lumières sur la situation en Italie. Et comme vous dites, évidemment, on va devoir attendre encore un petit peu pour voir ce qui se dessine du côté de l'Italie. Merci et bon dimanche à vous. L'actualité à l'étranger, c'est aussi cette prise de parole qui était très attendue. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, s'est exprimé hier à l'Assemblée de la tribune, à l'Assemblée générale des Nations Unies, comme une provocation. Il a critiqué l'attitude des pays occidentaux. Wilfried de Villers, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette allocution ?
Dès le début de sa prise de parole, le ministre russe des Affaires étrangères a directement dénoncé la russophobie sans précédent des Occidentaux qui veulent faire, dit-il, disparaître la Russie, jugée trop indépendante. Il affirme même que Washington et Bruxelles ont provoqué la guerre en Ukraine. Sergueï Lavrov est également revenu sur la tenue des référendums d'annexion actuellement en cours dans 4 provinces du sud et de l'est de l'Ukraine, ironisant sur les condamnations européennes et américaines et défendant la légitimité des scrutins. Le chef de la diplomatie réaffirme de nouveau la souveraineté russe sur ces territoires, comme l'explique le spécialiste des questions internationales, Patrick Martin-Genier.
Il est en train de dire qu'il va considérer que toute agression contre ces républiques fédérées, intégrées à la Fédération de Russie, sera considérée comme une agression contre la Russie. C'est donc la réitération d'une menace de l'utilisation de l'arme nucléaire en Ukraine. Donc c'est vrai que c'est extrêmement inquiétant.
Et quand un journaliste lui pose la question d'une possible utilisation de l'arme nucléaire, Sergueï Lavrov répond simplement « Nous avons une doctrine nucléaire, vous pouvez la lire, elle est extrêmement clair. Plus tôt dans la semaine déjà, Vladimir Poutine assurait que la Russie utilisera tous les moyens nécessaires pour se protéger.
Les explications de Wilfried De Villers pour Europe 1, alors que Vladimir Poutine lui a signé hier un décret qui prévoit jusqu'à 10 ans de prison pour les militaires qui se rendent ou qui refusent de combattre en période de mobilisation. Il est pratiquement 1h20 sur Europe 1. Vous restez avec nous. Passage en force ou concertation, quelle méthode pour faire passer la réforme des retraites? L'exécutif se donne encore quelques jours pour trancher. À tout de suite.
Europe Midi Weekend.
Léna Aigmonier.
Deuxième partie d'Europe Midi Weekend, il est midi 41 et le gouvernement va présenter demain son projet de budget 2023 et son projet de loi de financement de la sécurité sociale. Voilà qui promet d'être explosif si l'exécutif y introduit la réforme des retraites. J'accueille Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, dans un instant pour en parler. Mais avant cela, avec vous Arthur Delaborde, on va voir que les tensions restent vives autour du sujet et que pour déminer le terrain, eh bien Emmanuel Macron se montre plutôt ouvert au dialogue.
Oui, Emmanuel Macron temporise et veut montrer qu'il consulte. Cette réunion permettra de faire le point sur la nécessité et les enjeux de cette réforme des retraites, explique l'Élysée. Le Palais souligne que l'objectif est qu'elle soit adoptée coûte que coûte à l'été 2023. Mais pour le moment, plusieurs options sont encore sur la table, que ce soit un texte autonome d'ici le début de l'année prochaine ou un simple amendement d'ici Noël. Cette seconde hypothèse était jusqu'ici privilégiée, mais les critiques au sein même de sa majorité ces derniers jours ont fini par faire hésiter le chef de l'État. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, n'y est pas favorable, tandis que François Bayrou dénonce même un passage en force. Le patron du Modem a prévenu que ses députés ne voteraient certainement pas un tel amendement. François Bayrou, qui aura l'occasion d'en parler directement à Emmanuel Macron, les deux hommes se verront vendredi à Pau. Le président ira inaugurer un complexe culturel dans la ville de son allié centriste.
Merci Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 et bonjour Yves Tréhard.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors je le disais, vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro, merci d'être avec nous en ce dimanche. Gabriel Attal le redit ce matin dans les colonnes du JDD, nous ferons la réforme des retraites. La question c'est comment? Est-ce qu'on passe par le budget de la Sécu? Est-ce qu'on part sans force? Est-ce que c'est vraiment la bonne méthode?
Non, par définition c'est pas la bonne méthode, puisque vous savez c'est une réforme et tous les sondages le montrent. Qui rencontre l'opposition de non seulement des partis politiques, mais beaucoup des Français. Une grande majorité de Français ne comprennent pas cette réforme et ne veulent pas travailler plus longtemps. En tous les cas, ils le font savoir. Et ça a toujours été d'ailleurs un sujet explosif en France. Mais même si des réformes ont été faites, faut pas l'oublier, il y a
bien
eu une réforme en 93, une réforme en 2004, une réforme en 2010. Mais bon, la démographie fait que l'espérance de vie plutôt fait que on vit de plus en plus longtemps, donc les charges, je dirais, et les sommes consacrées à la vieillesse ne cessent d'augmenter. Et donc, il faut évidemment réformer notre système.
Alors, dans l'opposition à la France Insoumise, notamment, on aimerait beaucoup pouvoir parler de cette réforme des retraites. Pas de chance, c'est l'affaire Quatennens qui n'en finit pas de faire des vagues avec ce soutien encore hier soir chez nos confrères de France 2 de Jean-Luc Mélenchon. On va écouter le leader de la France Insoumise ensemble, si vous le voulez bien, Yves. Et puis, je vous fais réagir d'accord. Juste après.
Adrien Quatennens a donné cette gifle, il s'en est excusé, il l'a avoué, c'était il y a un an. On doit tenir compte du fait que cet homme s'amende en public, qu'il est dans une procédure de divorce et que toute la France se mêle de son divorce. Et je souhaite, moi, de toute façon, qu'il revienne dans le combat politique. Parce que c'est un homme, nuit et jour, au boulot, qui a cramé sa vie, qui a cramé sa jeunesse. Alors on peut toujours dire, ouais, c'est un député, etc. Non, il y a tous ces états de service.
Alors Jean-Luc Mélenchon persiste et signe, hein, il soutient son dauphin Yves Tréhard. Le Parisien se demande ce matin à sa une si Jean-Luc Mélenchon peut tenir. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, ça va être compliqué. C'est vrai que on est dans un contexte qui est très différent. Vous vous souvenez, quand il avait eu ses problèmes judiciaires, il avait dit « la République, c'est moi ». On pensait que ça lui serait préjudiciable. Et puis finalement, on a vu qu'à l'élection présidentielle, il faisait un très bon score. Mais là, on est quand même dans un contexte très différent. Je pense que les mentalités en France ont beaucoup évolué. Et on exige des élus, quel qu'il soit, et surtout quand ils occupent les premiers rangs, comme c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, qu'il soit tout à fait exemplaire. Et là, je pense pas que maintenant, il puisse s'en sortir aussi facilement. Les arguments qu'il donne sont certes audibles, mais je crois pas que ça puisse satisfaire une grande partie des Français et surtout ses alliés écologistes et aussi dans les rangs de la France insoumise, où on sait que c'est un sujet qui est ô combien sensible, celui de la violence faite aux femmes.
Et en particulier chez les plus jeunes de la France insoumise.
Oui, tout à
Merci
fait.
Beaucoup Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bon dimanche à vous. Alors je sais pas si vous êtes un amateur de choucroute, mais si c'est le cas, ce que vous allez entendre va forcément vous intéresser, puisqu'en Alsace, les plantations de choux ont beaucoup souffert de la sécheresse cet été. Ils sont plus petits que d'habitude, alors il n'y aura pas de pénurie de choucroute cet hiver, mais elle coûtera un peu plus cher. Écoutez plutôt ce reportage de Mélina Fachin.
Au milieu de ces 6 hectares de choux, Florent Hadès, producteur, ne peut que constater les effets de la sécheresse.
Ça, c'est un chou là, vous voyez. Une année normale, on tourne à peu près avec des têtes de 7-8 kilos. Et là, cette année, on tourne autour de 6. On a aussi des petites têtes qui ont seulement 4 kilos, quoi. Le chou, il aime pas trop les grosses chaleurs. Au-dessus de 30 degrés, il aime pas du tout. Et donc, même avec l'irrigation, on le maintient en vie. Mais ils sont quand même un peu plus petits, ouais.
La récolte ne se finit que fin novembre, début décembre. Un peu tôt, donc, pour se prononcer. Mais Sébastien Muller, dirigeant de la choucrouterie Le Pic, qui transforme les légumes d'une quinzaine de producteurs, table sur environ 25% de pertes par rapport à l'année dernière.
Les choux sont encore de taille convenable, mais on est effectivement proche de la limite. On arrivera à faire de la choucroute d'Alsace IGP. Pas de pénurie de choucroute pour l'instant. Il faut attendre le résultat final, mais c'est sûr qu'on est sur une récolte qui sera pas la meilleure du siècle.
Et avec ces charges et ces factures d'énergie qui explosent en ce moment, comme pour tout le monde, pas le choix, la choucroute coûtera sans doute un peu plus cher cet hiver, autour de 40 centimes en plus par kilo. Crotter Garsheim, Mélina Fachin, Europe 1.
Et alors que Mélina Fachin vous a mis en appétit, on vous souhaite un très bon déjeuner sur Europe 1. Il est quasiment 1h10. Dans un instant, vous saurez tout sur le nouveau champion du monde de cyclisme sur route. Il n'y a pas de français cette fois-ci, puis on parlera de foot également. À tout de suite.
Europe Midi Weekend.
Lénaïque Monnier.
Et de retour sur Europe 1, 1h10 pour la dernière partie d'Europe Midi Weekend et pas de troisième maillot arc-en-ciel, hélas pour Julien Alaphilippe. Il est désormais sur les épaules de Remco Evenepoel. Bonjour Axel May.
Bonjour Léna.
Alors il n'y a pas de victoire française, mais il y a quand même de quoi se réjouir.
Bah oui, parce que c'est quand même la troisième médaille consécutive pour les Bleus après les titres de Julien Alaphilippe en Italie, puis en Belgique. Christophe Laporte, l'un des meilleurs Français de la saison, a réglé au sprint le peloton pour s'emparer de l'argent en Australie. Vu le déroulement de la course, on n'a pas à cracher sur cette médaille, a déclaré le sprinteur varois. Car avec un Julien Alaphilippe diminué par les blessures à répétition, les Bleus sont inclinés face à celui qui était l'un des grands favoris de cette course disputée aux antipodes, Remco Evenepoel, le petit cannibale belge qui s'est mis au cyclisme adolescent. Hein. À 16 ans, rendez-vous compte, il jouait encore au football à un niveau quasi professionnel. Et à 22 ans, le voici champion du monde après avoir gagné cette année Liège-Bastogne-Liège et la Vuelta, le Tour d'Espagne. Écoutez sa réaction au micro de nos confrères de la RTBF.
Ouais, c'est incroyable. Je pense que c'est une saison magique, quoi. Déjà avec la Vuelta, j'étais très heureux. Ma saison était faite, mais avoir encore ce maillot-là, c'est incroyable.
Voilà, incroyable phénomène, Remco Evenepoel, avec son petit gabarit, son physique presque râblé, son visage à peine sorti de l'enfance, déjà champion du monde chez les juniors en 2018, médaillé de bronze au championnat du monde de contre-la-montre en Australie il y a quelques jours. Il s'est donc imposé en solitaire sur la course en ligne. À l'arrivée, il a même eu le droit à une chaleureuse accolade de Julien Alaphilippe. Il faut dire que les deux hommes courent dans la même équipe professionnelle, l'équipe Quick-Step. Bref, on est heureux pour les Belges et on n'est pas trop déçus du côté des Français.
Merci Axel May. Alors vous le savez Axel, l'autre pays du vélo évidemment c'est le Danemark et pourtant c'est bien de foot dont il est question ce soir avec l'équipe de France qui espère bien terminer en beauté sa Ligue des Nations au Danemark. Cyril de la Morinerie, on y va pour gagner.
Oui, au pays du vélo, dans la capitale danoise qui a accueilli le grand départ du Tour de France 2022, l'équipe de France de football veut changer de braquet. Après avoir déraillé en juin, notamment face aux Danois, les Bleus veulent confirmer la belle impression laissée jeudi dernier. Et ce soir, c'est en quelque sorte une petite finale, une victoire. Et les Français seraient assurés de rester au sein de l'élite de la Ligue des Nations la saison prochaine. Mais Raphaël Varane voit beaucoup plus loin. Il pense déjà à la Coupe du Monde, car ce soir, c'est le dernier match des Français avant la compétition reine, rappelle le capitaine des Bleus.
Pour moi, l'objectif, c'est de se préparer. Il n'y aura pas de match amicaux avant. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, chaque minute sur le terrain, chaque match, ça compte pour l'objectif Coupe du Monde.
Quant aux affaires extrasportives qui entourent ce rassemblement, Didier Deschamps assure que rien ni personne ne peut perturber sa tranquillité. Un match très attendu ici, le stade sera plein ce soir. Le demi-finaliste du dernier Euro sera soutenu par son public, habillé de rouge et de blanc.
C'est un match qu'on suivra évidemment en direct intégral sur Europe. On a entendu le ding-ding du vélo. Christopher Filhoc, on va plutôt entendre vrombir les moteurs des motos puisqu'il y avait le Grand Prix du Japon aujourd'hui en MotoGP. C'est Jack Miller, l'Australien, qui a gagné. Pour les Français, Joan Zarco et Fabien Quartararo, comment ça s'est passé?
Eh bien écoutez les Naïcs, un scénario fou dans ce Grand Prix du Japon qui a souri à Fabio Quartararo. Malgré une 8e place pas forcément éclatante, le pilote Yamaha a tout de même réalisé la bonne opération du week-end, puisque son concurrent direct pour le titre de champion du monde Francesco Bagnaia a chuté lors du dernier tour en essayant de doubler le français. Tombé dans les graviers, il repart donc bredouille, contrairement à Quartararo qui engrange 8 unités de plus et compte désormais 18 points d'avance sur Francesco Bagnaia. Grosse déception en revanche pour l'autre français, Joan Zarco, parti pourtant deuxième pour sa 100e course en MotoGP. Le français a mal commencé et a enchaîné plusieurs erreurs qui l'ont rapidement fait sortir du top 10. Pour le reste, retour réussi ici pour Marc Marquez, parti en première position, le sextuple champion du monde, signe une convaincante 4e place. Pour rappel, l'Espagnol est revenu seulement le week-end dernier en compétition après 3 mois d'absence en raison d'une opération au bras droit. Alors certes, il n'avait peut-être pas le rythme, mais il montre qu'il faudra compter sur lui pour la fin de la saison. L'autre Espagnol, Alex Espargaro, lui a souffert d'un souci mécanique et a dû prendre le départ depuis la voie des stands. Malgré une belle remontée, il n'a pu faire mieux que 16e. Le prochain Grand Prix, ce sera en Thaïlande pour la 17e étape de ce Grand Prix.
Et vous viendrez évidemment nous en parler sur Europe 1. Merci Christopher Filhoc.
Europe Midi Weekend, Léna Aigmonier.
Et avant de nous quitter, cette très belle initiative signée François Gabart, le navigateur qui sera au départ de la route du Rhum dans 6 semaines, fait en ce moment le tour des écoles pour sensibiliser les enfants à la protection des océans. Reportage à Puteaux, près de Paris, où une classe de CE1 a rencontré le skipper.
À quel âge vous avez conduit votre premier bateau tout seul?
Sur les murs de la classe de ces enfants captivés par leur invité, des cartes de la route du Rhum, une fresque d'algues et de poissons et des maquettes de bateaux. Aujourd'hui, ils ne perdent pas un mot de ce que leur confie François Gabart.
Je crois que c'est exactement à votre âge.
Tout seul?
Tout seul, un optimiste, un petit bateau.
Puis les élèves sortent de leur cartable des objets en plastique.
Qu'est-ce que t'as apporté comme objet, toi?
Une bouteille. Le plastique, c'est horrible pour les océans. Si on a pas d'océan en bonne santé, et ben on peut pas avoir de planète en bonne santé.
D'autres leçons suivront dans l'année sans François Gabart, dont l'aventure inspire la maîtresse Julia Mallet.
Ce projet, on peut l'utiliser dans toutes les matières, à la fois pendant les dictées, on parle des océans, de la voile, et puis en mathématiques, on fait des petits problèmes, et on voit vraiment que les enfants sont beaucoup plus attentifs.
Les CE1 ont aussi accès à une plateforme interactive avec des vidéos du navigateur, qui est reparti avec des dessins pour décorer son trimaran.
Le reportage de Louise Salé pour Europe 1 et François Gabart qui interviendra d'ailleurs sur notre antenne chaque jour pendant la route du Rhum qui part le 6 novembre. Il nous reste à voir le temps. Valérie Darmon, les éclaircies gagnent un tout petit peu de terrain.
Effectivement, surtout, et ça va vous faire plaisir, Charles Naïc, de l'ensemble de la Bretagne et Hauts-de-France, jusque sur le pays nantais, le bassin parisien aux Ardennes, jusqu'en région centre. C'est là que les éclaircies s'imposent le plus, malgré quelques averses, toujours le long de la Manche. Dans le sud-ouest du bassin aquitain aux Pyrénées, vous retrouvez aussi tranquillement des éclaircies, sauf sur le piémont pyrénéen où l'ambiance reste humide, notamment sur le Pays basque. Grand Est, Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne, Jura, il va pleuvoir par intermittent jusqu'à ce soir, avec de de la neige sur le nord des Alpes, au-dessus de 2200 mètres. Sur les régions méditerranéennes, vous retrouvez le sourire et le soleil. Un mot des maximales avec 16 à 23 du nord au sud, jusqu'à 24 à 26 de la Côte d'Azur à l'île de Beauté.
Merci Valérie Darmon. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Isabelle Morizet qui reçoit Jeanne Masse en ce dimanche. À tout de suite.